12e verset, donc. Début du chapitre. Donc, pardon, de la parasha à sa mère, 60, donc. Donc, Vayomar Hashem, Eloke Adoni Abraham, Akreina Lefanai, Ayom, le Gomer. Donc, le Eved, donc Eliezer, s'adresse à Hachem, il fait une prière, il est arrivé, il est au puits, et c'est le moment où sortent les filles qui vont puiser de l'eau. Bon, je pense que c'est le soir, vers le soir, il sort pour puiser de l'eau. Et lui, il fait une prière. Et il demande à Hachem, il demande Hachem Eloke Adoni Avraham. Hachem, le Dieu de mon Seigneur Avraham, mon maître Avraham. Hakreina, fais advenir les choses, s'il te plaît. Lefanai, donc. Qu'elle se présente devant moi, que je la vois en quelque sorte, que je la rencontre. Et il demande à Hachem, Vase chesed im Adoni Avraham. Et fais du chesed avec mon Seigneur, mon maître Avraham. Le Midrash parle pour l'instant du début jusqu'à Kreina Ayom. Et comme souvent, le Midrash prend un pasouk du Nach. Là, en l'occurrence, il prend un pasouk du Navi. Le Navi Yeshaya, qui dit « Mi bachem yere Hashem, shomea bekol avdo ». Littéralement, ça veut dire « Qui parmi vous craint Hashem, shomea, qui entend bekol avdo, la voix de son serviteur, de son esclave ». Et le Midrash va donc, comme toujours, comme très souvent, il va faire parler ce pasouk du Navi et en le décomposant. Alors, Mi Bachem Yere Hashem, donc la première moitié. Qui parmi vous craint Hashem? Alors, on dit celui qui craint Hashem, c'est Abraham. D'où est-ce qu'on sait qu'Abraham craint Hachem? On le sait, c'est ce qu'Hachem a dit à Abraham après la Akeda. Il lui a dit, il a fait arrêter sa main pour qu'il ne touche pas au corps donc de Yitzhak. Il lui a dit, maintenant je sais que tu es Yaré Hachem, je sais que tu me crains. C'est une crainte révérentielle, bien sûr. Je sais que tu me crains. Donc, cette partie-là, bon, dire que le Navi parle d'Avraham Avinu, c'est très possible. En plus, c'est Mi Bachem, qui est-ce qui craint Hachem? Le premier dont on dit qu'il craint vraiment Hachem, au bon niveau, c'est bien, c'est effectivement Abraham. Mais la deuxième partie, elle n'est pas très claire. Shomea Bekol Avdo. Alors, le mot shomea, dans la phrase, quand vous dites qui parmi vous craint Hachem, shoma, il entend la voix de son serviteur, a priori, le shomea, il porte sur qui? Sur le mi, a priori. C'est le même sujet de la phrase. Mi yere Hashem, qui craint Hashem, shomea kol avdo. Donc a priori, c'est quoi? C'est Abraham, c'est le mi, c'est Abraham. Écoute, il écoute la voix de son serviteur. Pour dire comme ça, il écoute la voix d'Eliezer, son serviteur. On pourrait dire comme ça. Et le Midrash dit, Shomea bekol avdo, il fait comme si Shomea allait sur Hashem. Asher shama kadosh baruch hu bekolo shel avdo. Kadosh baruch hu a écouté la voix de son serviteur, de son esclave. Mais c'est qui l'esclave alors? C'est Abraham l'esclave, le serviteur, l'avdo de... La phrase, elle est étrange de traduire comme ça. Qui est-ce qui craint Hachem? Qu'est-ce qui craint Hachem qui est quelqu'un, si je veux dire quelqu'un sur Hachem, c'est pas... Quelqu'un qui écoute la voix de son serviteur? C'est un peu compliqué, non? On pourrait dire craindre Hachem, si Hachem lui-même écoute la voix du serviteur, quelque part, ça pourrait diminuer la crainte qu'on a d'Hachem. Si Hachem écoute quelqu'un d'autre, écouter, c'est quelque part écouter et suivre peut-être ce que celui qui parle dit. Donc c'est presque une diminution de la hauteur d'Hachem, ce qu'il est présenté ici comme quelqu'un qui écoute la voix de son serviteur. On regarde la suite. C'est la suite du verset de Yeshaya. Asher halach chashechim, qui va dans l'obscurité, on va traduire. Alors maintenant, c'est le avdo qui marche dans la, a priori évidemment. Il écoute, ça veut dire qui craint Hachem, qui lui écoute son serviteur qui marche dans l'obscurité. Le serviteur marche dans l'obscurité. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu l'entend. Et Abraham craint Hachem qui entend la voix de son serviteur qui marche dans l'obscurité. Sheba, mi Mesopotamia ou Mechavrotera, qui vient de Mésopotamie et des alentours, velo haya yodea echan, il ne savait pas où il était. Il était ke Adam sheusharui bachosher, comme un homme qui est plongé dans l'obscurité. Et il n'y a absolument aucune lumière pour lui. C'est compliqué. Abraham écoute Hachem. Abraham craint Hachem qui écoute la voix de son serviteur qui marche dans l'obscurité. Ce serviteur, il est en train de marcher de Mésopotamie. Il vient de Mésopotamie, on ne sait pas d'où il va d'ailleurs. Il ne sait pas du tout où il est comme quelqu'un qui est dans l'obscurité, mais on vient de dire qu'il est dans l'obscurité, donc quand on dit qu'il est comme quelqu'un, on a dit Asher Alach Asherim, il marche dans l'obscurité. Alors, pourquoi on répète qu'il est comme quelqu'un qui est plongé dans l'obscurité et qui n'aurait pas de et qui n'a pas de lumière. En nogalo. Bon, pour l'instant, vous voyez, enfin, disons, je ne sais pas très bien traduire ce verset, enfin, tel qu'il est expliqué par le Midrash. Umi haya meirlo, mais qui est-ce qui a illuminé, qui est-ce qui a mis de la lumière pour ce serviteur qui était dans l'obscurité complète? Akadosh Baruch Hu meirlo bechol makom shaya olech. Akadosh Baruch Hu l'éclairait partout où il allait. Yiftach b'shem Hashem, il fera confiance au nom d'Hashem, v'yisha'en b'elokav, il s'appuiera sur son Dieu. Si on dit que Uba mi Mésopotamia me chavrotea, il vient de Mésopotamie, qui est-ce qui vient de Mésopotamie? Vous avez le droit de parler, vous pouvez ouvrir vos micros.
Avram,
oui, évidemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Avdo qui est dans l'obscurité, c'est Avram, qui ne sait pas où il est. Il est dans l'obscurité totale, mais qui va l'éclairer? Finalement, il est sorti de cette obscurité. Qui l'a éclairé pour sortir de là? C'est Hachem qui l'a éclairé partout où il allait. Et il a fait confiance au nom d'Hachem. Il s'est appuyé sur son Dieu. Et du coup, le Midrash continue. C'est un passouk dans Nehemia qui dit que Hachem, si on le dit dans la Tfila, Hachem a trouvé que le cœur d'Avraham Avinu était fidèle à Hachem. Tu l'as trouvé fidèle à toi? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce verset-là? On veut expliquer « Vayomer Hashem Elokei Adoni Avraham Hakreina Lefanai Ayom » Donc, si j'ai bien compris, le Midrash il parle dans ce passouk, on ne parle que d'Avraham. Eliezer qui a dit qu'il demande à Hashem de faire quelque chose pour mon maître Avraham. Avraham, c'est quelqu'un qui te craint, toi Hachem, toi qui l'écoute. Et toi, tu écoutes Avraham. Donc, puisque tu l'écoutes, alors je te demande, je m'adresse à toi, au nom d'Avraham en quelque sorte. Pour Avraham, que tu écoutes, que tu as guidé, il sortait de Mésopotamie, il était dans c'est l'idolâtrie complète. Il avance dans l'idolâtrie, il est entouré d'idolâtres, et il y voit clair. Comment fait? Pourquoi il y voit clair? Parce que tu l'as éclairé. tu l'as, toi, Hachem, tu l'as éclairé. Alors, du coup, lui, il a confiance en toi. Il s'appuie sur son Dieu. Vous voyez ici, Iftar b'shem Hashem, Vishaen b'elokav. Il a confiance, b'shem Hashem, dans le nom divin. Quand on dit, on dit pas, ici, on a, il dit pas, il a confiance en Hashem. La confiance dans le nom divin. Le nom divin, vous vous souvenez, je crois qu'on a, je vous avais dit dans la troisième bracha de la Amida, on dit Ata Kadosh, Beshimcha Kadosh, Ukdoshim Bechol Yom Yallucha. C'est là. C'est une bracha sur la Kdusha. La notion de Gdusha, quand elle s'applique à Hachem, c'est extrêmement abstrait. C'est pas très. On a déjà dit souvent, ici et ailleurs d'ailleurs, que la Gdusha, le premier niveau de Gdusha, c'est la notion de séparation. Kadosh, c'est aussi Kdoshim Tiyu, Proshim Tiyu, c'est-à-dire soyez séparés. Il faut se séparer. La Kdusha, c'est une notion de séparation. Mais la séparation, c'est prendre conscience de la Kdusha à l'Hachem, c'est comprendre, prendre conscience de la séparation qu'il y a. Donc, on pourrait dire, prendre conscience de la hauteur divine. Mais quand vous voulez parler concrètement de hauteur, quand cette hauteur, elle... C'est comme quand nous, on parle de millions de kilomètres, de milliards de kilomètres, de millions d'années-lumière, ça ne veut strictement rien dire. On n'a absolument aucune représentation de ces choses-là. Donc, quand on parle de la Kdusha dans la Amida, alors, dans la Bracha, on dit comment Hachem nous permet de comment donner du sens quand tu dis Baruch Ata Hashem Akel Akadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour que ça soit un peu plus à notre portée, alors on dit Ata Akadosh. C'est déjà, on se permet de dire qu'il est Kadosh. Normalement, sur le Hu Yitbarach, on ne peut rien dire du tout. Mais disons comme ça, comme on s'adresse à Hachem dans la Tfila, Ata Kadosh. Maintenant, c'est tellement haut. Shimcha Kadosh. Déjà, ton nom est Kadosh. Le nom, c'est inférieur à Ata. Ukdoshim, et ceux qui sont Kadosh, disent que tu es Kadosh. Ça veut dire, moi, j'ai des gens dont je pense qu'ils sont kadosh. Et c'est comme ça que je peux, en quelque sorte, appréhender la Kdusha divine. Bon, je connais quelqu'un qui est kadosh. Lui, je sais qu'il considère quelqu'un d'autre dont je sais plus ou moins qui c'est, qu'il est kadosh. Et l'autre aussi. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de construction, pas à pas, de la Kdusha. Comment on arrive à décrire la hauteur en disant, ben, tu vois, c'est la hauteur d'un immeuble, c'est peut-être la hauteur de la Tour Eiffel, c'est la hauteur de l'Everest. Maintenant, si tu mets deux Everest l'un sur l'autre, et puis trois Everest, et puis, etc. Alors, ça donne une idée, en quelque sorte, une espèce d'échelle pour aller dire quelque chose sur la Kdusha pour que ça soit pas complètement abstrait. Ce que je veux juste garder de cela, c'est que le nom d'Hachem, c'est pas aussi haut qu'Hachem, évidemment. Parce que le nom, Hachem, pour lui-même, vous non plus, pour vous-même, vous n'avez pas besoin d'un nom. Bon, même si vous n'aviez pas de nom, vous vous sentez très bien, quoi. De temps en temps, vous vous dites peut-être bien, vous interpellez avec votre nom, ça c'est selon ce que vous voulez, mais en principe, on n'a pas tellement besoin de son nom. C'est comme la même chose, un peu la même chose, vous connaissez votre numéro de téléphone? Non, je ne m'appelle jamais. Je ne connais pas mon numéro de téléphone. Je ne m'appelle pas. Parce que je n'ai pas besoin. Le nom, c'est pour la relation avec autrui. Donc, c'est déjà quand Hachem, les noms divins, c'est quoi? C'est pour nous dire les différentes anagotes d'Hachem avec le monde. Comment Hachem gouverne le monde? Il gouverne avec la Milatadin, Elohim, Ukel Shakai. C'est les promesses, mais qui ne sont pas tenues, etc. On ne voit pas, disons, la réalisation. Tout en haut, le nom, dans les noms, le nom le plus élevé, c'est le tétragramme, c'est Hachem. Alors il dit, ici, Avraham, il a confiance, mais Shem Hachem déjà. Donc, parce que c'est quelqu'un qui est capable d'invoquer le nom divin. Et ce sur quoi il s'appuie, c'est même pas sur Elohim, mais c'est Elokav. C'est son Dieu. C'est-à-dire, c'est le Dieu avec lequel il a une certaine relation. Alors qu'on dit, quand le matin on dit Elokai, mon Dieu. Bon, c'est pas parce qu'on est en France et qu'on dit mon coiffeur et mon boucher, etc. C'est là, toujours le mont partout, hein? Le mont comme si c'était le vôtre. Non, c'est simplement une façon de dire qu'effectivement, j'ai quelque chose de particulier, si vous voulez. On peut presque dire, c'est comme on dit, l'aneshama, c'est chelek elokam imal. Voilà, donc mon Dieu, c'est pratiquement là où se trouve ma neshama dans la divinité. C'est mon Dieu. Donc, Elokav, c'est justement la relation qu'il a avec Hachem quand il est Elokav, c'est-à-dire quand il le guide, et qu'il sent bien que Hachem s'occupe de lui en particulier. C'est là-dessus qu'il prend appui. Donc ici, le Midrash, il a voulu nous montrer ce que ça voulait dire quand Eliezer dit « Hachem Elokei Adoni Avraham ». D'accord ? Il te fait confiance. D'accord ? Il s'adresse au Shem Hachem et il s'appuie, l'Israël, sur Elokav, Elokei Adoni Avraham. Pour nous dire dans quel état d'esprit est Eliezer quand il parle à Hachem. Et sur ce même verset, il y a un davar acher, dit le Midrash. Mi bachem yirei Hachem ze Eliezer. Shomea bekol avdo, qui écoute, bekol avdo, bekol Avraham, Shaya Eved la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Mi Bachem, Eliezer qui craint Hachem. Hachem qui écoute la voix de son serviteur Abraham. Voilà, c'est écrit dans le Passouk, c'est écrit Bavour Avraham Avdi. Hachem dit d'Avraham qu'il est mon serviteur. Hacher Allah Hashechim, pardon, Beshah Shehalach Lavi et Rivka. Maintenant, on reparle d'Eliezer, qui allait amener Rivka, Ven Nogalo. Mais il était paumé, il ne savait pas où il fallait aller. Il est là au bord du puits, enfin auprès du puits, là, et il ne sait pas quelle fille il faut prendre. Miaya Meirlo, Akadosh Baruch Hu Aya Meirlo, Zikim ou Bivrakim. Hachem l'éclaire, mais avec des éclairs. Quand on parlait d'Abraham, on disait que Akadosh Baruch Hu l'a éclairé partout où il allait. Aya Meirlo Bechol Makom. Chez Abraham, c'était comme une espèce de lumière continue partout où il allait. Chez Eliezer, c'est des éclairs. Donc, ce n'est pas la continuité, c'est un degré en dessous. Il se débrouille, mais c'est des éclairs plutôt. Yiftach b'shem Hashem, v'yishaen b'elokav. Il s'appuiera sur le nom d'Hashem, il aura confiance dans le nom d'Hachem, il s'appuiera sur son Dieu. Viomar, et il va dire Hachem Elokei Adoni Abraham Akrena Lefanai Ayom. Donc c'est un peu curieux. C'est-à-dire, ici on dit il aura confiance, mais c'est Eliezer qui a confiance. Et pourtant, voilà, c'est la confiance d'Eliezer, c'est parce que. En fait, Eliezer et Abraham, je crois que c'est la leçon dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur la relation Eliezer-Abraham. Eliezer, c'est quasiment une espèce de comment il faut dire, de deuxième, c'est un avatar, un deuxième. Un deuxième Abraham. D'accord, on joue là sur le. Là, on est passé d'Eliezer à Abraham. Parce que, en vérité, on pourrait dire, de façon peut-être un peu trop simple, mais on a bien vu, par exemple, que quand la fille de Paro va au Nil, Batishlach Tamata, elle envoie sa servante pour chercher le berceau de Moshe. Alors, il y a deux lectures, ou bien elle a envoyé sa servante, ou bien Batishlach Tamata, la Hamas, c'est une coudée, c'est une mesure, donc son bras s'est allongé. Et on voit par la suite, donc ça veut dire que quelque part la servante, ben, c'est le bras de la femme, c'est le bras de la maîtresse. Le ventre de la servante, chez Rachel et Léa, c'est le ventre de leur maîtresse. Il y a quelque chose dans la notion de Eved, que l'Eved est une espèce une prolongation du corps du maître. Et donc là, Eliezer, il s'identifie quasiment à son maître. Alors, il ne s'est pas seulement identifié parce qu'il est Eved, mais parce qu'effectivement, il était, comme on dit, il puisait tout l'enseignement de son maître. Il était au même niveau qu'Abraham, d'une certaine façon, ce qu'on a vu plus haut. Donc ici, on voit très bien le Midrash, il lit le verset une fois sur Abraham et une fois ce même verset sur Eliezer. Mais quand il le lit sur Eliezer, ça glisse un petit peu. Parce qu'on utilise des psukim, d'accord, qui est le pasouk Ishaen be'elokav ou bien Iftar b'Hashem. Alors, ce n'est pas lui directement, c'est lui qui a confiance, mais il appelle ça Elokav. On va dire, bien sûr que son Dieu, c'est aussi le Dieu d'Abraham, mais pas tout à fait. Dans Elokav, il y a quand même une dimension privée, en quelque sorte. Mais parce qu'il est son Eved, alors il dit Elokav et c'est Elokav chez l'Abraham, mais aussi Elokav chez l'Eliezer. Donc ça, c'est d'une certaine manière une espèce d'introduction pour nous dire encore plus fortement que ce qu'on a vu jusqu'à présent, D'une certaine manière, c'est Abraham qui est en train de chercher Rivka. Mais Abraham avec un autre corps, dans un autre corps. On s'appelle ça un double. Je ne veux pas dire qu'il y a un dédoublement d'Abraham. Mais Eliezer, il se conduit comme s'il était le double d'Abraham. Et le Midrash, il accentue cette idée. Alors, on est toujours dans le commentaire de ce verset. Vayomer Hashem Elokei Adoni Avraham Akrena Lefanai Ayom. Alors, le Midrash, le numéro 2, là, il dit, il y a un pasouk dans Michelet, Eved Maskil Yimshol Beven Nevish Ubetoch Achim Yachlok Nachala. Eved Maskil, un esclave Maskil intelligent, Yimshol, il va dominer, Moshel, Beven Mevish, il va dominer un fils qui fait honte. Ubetoch Achim, et parmi les frères, Yachlok Nachala, il partagera l'héritage. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que avant de regarder le Midrash, on a l'impression que si le Midrash veut nous parler d'Eliezer ici, il est en train de dire que Eliezer, qui est un esclave intelligent, il domine le fils qui fait honte, Lévish, Boucha. Et il aura part, il aura une part à l'héritage. Il va partager avec les frères, il partagera l'héritage. Alors, Eved Maskil, bon, ça c'est clair, c'est Eliezer. Avant, il a travaillé sur un pasouk dans Navi Yeshaya, travaille maintenant sur un pasouk dans Michelet. OK? Eved Maskil, c'est Eliezer. Bon, ça, c'est clair. Meaya Haskalato. En quoi est-ce qu'on peut dire qu'il était Maskil? Où est l'intelligence d'Eliezer. Où est-ce qu'il a fait preuve de Ascala, d'intelligence? Alors le Midrash dit une drôle de chose. Le Midrash dit, Amar, Kva, qu'il l'ato chez l'auto haïch beyado, Shema yavo kushi echad ou barbare echad, mishtabed bi, mutav li l'ishtabed, babayt azé, ולא בבית אחר. אליעזר, il a fait le raisonnement suivant. Il a dit sur lui-même, il dit, Aïch, il parle de lui. Il dit, moi, Aïch, il dit, il parle de lui comme s'il était un tiers. Il dit Kvar qu'il l'atoche l'auto aish biyado. Je suis déjà sous une malédiction. Je suis cananéen et Canaan il est maudit. Donc je suis maudit. La malédiction qui a été dite par Noach, c'est Eved Avadim Yel Necha. Il va être esclave d'esclaves. Canaan. Sa malédiction, c'est d'être esclave d'esclaves. Alors, il dit, je suis déjà maudit, je suis essentiellement un esclave. Et donc, n'importe quel autre esclave, c'est-à-dire n'importe quel bonhomme peut venir et il va me réduire en esclavage. C'est-à-dire, ça peut être un couchi, ça peut être un barbare. Et donc, tant qu'à faire, je suis mieux d'être esclave dans cette maison-là plutôt que dans une autre maison. Donc, on présente Eliezer comme quelqu'un qui a choisi de l'être Bréra, en fait. Il a choisi d'être esclave chez Abraham. Certains disent qu'il est un fils de Nimrod et que c'est... Est-ce qu'il est allé de lui-même se vendre comme esclave chez Abraham? C'est pas clair, mais disons, le Midrash ici ne nous en dit rien du tout. Donc il est allé, il a préféré être... C'est un choix. Un choix, c'est je préfère dans cette maison-là. Donc, il faut imaginer que quand il a choisi cette maison-là, il avait quand même des idées sur la maison en question. D'où est-ce qu'il sait que cette maison est meilleure que la maison d'un barbare ou d'un couchi quelconque? Il faut imaginer, sinon c'est pas intelligent de dire « je vais plutôt dans cette maison ». Ça veut dire qu'il a fait c'est-à-dire esclave pour esclave, voilà, je préfère être dans cette maison-là. Donc c'est en ça qu'il est masquille. C'était intelligent, c'est vu comme un raisonnement intelligent. C'est l'intelligence qui lui a fait choisir Abraham plutôt qu'un couchi ou un barbare quelconque. Est-ce que c'est un problème d'intelligence? Il a dû voir comment fonctionne Abraham avec ses esclaves. Et il s'est dit, bon, ben, ça a l'air, c'est mieux. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui est remarquable, si vous voulez, c'est que il a choisi cet esclavage. Quelqu'un qui sait qu'il va être esclave, il dit, ben, il peut peut-être s'abandonner, dire, bon, voilà. Je vais être esclave, on verra bien avec qui, chez qui je vais atterrir. Donc on met en évidence ce qu'il a choisi, c'est un choix. Donc quand il dit Adoni à Abraham, c'est pas seulement il est mon maître de facto, mais d'une certaine manière je l'ai choisi comme mon maître. C'est pas quelqu'un qui se trouve, mais s'il était esclave de n'importe quel couchi ou barbare, il aurait dit sur ce couchi ou barbare aussi Adoni. Mais ça n'aurait pas eu le même sens. Parce qu'ici, c'est un Adoni que je reconnais comme mon maître. Pas simplement de facto, il est mon maître. Donc ça, c'est l'intelligence. Eved maskil. Qu'est-ce que la suite du verset? Imshol beven mevish. Alors, il est Moshel. Sur un fils. Il n'y a pas le choix. Hein. Il est Moshel sur un fils. C'est qui le fils? C'est Yitzhak. Il est Moshel sur Yitzhak. C'est assez étonnant. En quoi est-ce qu'il est Moshel? Quand il va arriver avec Rivka, et que Rivka elle a vu Yitzhak de loin, et elle demande à Eliezer, c'est qui ce type là-bas? Et il lui dit, c'est mon maître. Donc, il présente Yitzhak comme son maître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici qu'il est Moshel? Il le domine. C'est vrai que ici, il est en train de le dominer. Parce qu'ici, il est en train de choisir sa femme. Et il n'est pas en train de demander à Yitzhak est-ce que ça te convient. En vérité, c'est pas aussi simple que ça, parce que par la suite, on sait très bien que Yitzhak, il a mis Rivka à l'épreuve. Formellement, on explique que Eliezer, ce qu'il a donné à, les cadeaux qu'il a donné à Rivka, c'est les Kiddushin. Il a donné les Kiddushin. au nom d'Israël. Mais, comme il est un Eved, ça ne marche pas vraiment. Alors Yitzhak, il va refaire des Kiddushin avec Rivka. Mais les Kiddushin, il les fera seulement comme il aura vu comment elle se conduit, quand il aura vu que cette jeune femme, elle entre dans la maison de Sarah et ça fonctionne comme quand Sarah avait 127 ans. Donc elle prend vraiment la suite de Sarah. Pas du tout qu'elle recommence comme Sarah. On dit, elle entre dans cette maison et voilà, c'est Sarah est dans la maison. Donc il va apprécier d'abord s'il veut vraiment redonner des kiddushin à Rivka. Mais disons d'une certaine manière, il est Moshel pour l'instant. Parce qu'il donne des kiddushin en son nom, sans lui demander son aveu. Il est Moshel. Imshol beben, jusque là ça va, mais Mevish qui fait honte. Alors, quand on lit le début du Midrash, c'est qu'on comprend que ça va sur Yitzhak et que c'est Yitzhak qui fait honte. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, Yitzhak fait honte? Alors là, le Midrash ici, c'est Yitzhak. Shebiyesh et kol ovde kochavim, besha'a, il a fait honte à tous les idolâtres. Quand il a été attaché sur le Mizbeach. Alors, il leur a fait honte. Ça veut dire, c'est pas que ce qu'il faisait était honteux, mais il s'est conduit de telle sorte que les homotaola, que les idolâtres, quand ils ont su, je sais pas, quand ils ont su ce qui se passait, ils en ont été honteux. Non, c'est pas très clair pour moi. En quoi est-ce que c'était, il y avait là de quoi faire honte aux idolâtres. Bon, eux, on parle quoi? Si on compare, ce seraient des idolâtres qui font les sacrifices humains. Alors, qu'est-ce que Yitzhak a fait de tellement extraordinaire pour que les autres en soit honteux? Je vois bien que Yitzhak était d'accord, c'est lui qui avait le souci d'être attaché, etc. C'est-à-dire que, probablement que dans les sacrifices humains que faisaient les idolâtres, l'humain qui était choisi, on lui demandait pas son avis, quoi. C'est peut-être ça la honte qu'il a fait, c'est que lui, il agit en toute connaissance de cause. C'est lui qui décide quasiment d'être attaché. C'est lui qui décide, qui accepte donc cette opération. Mais la vérité, je suis pas très content de ça. Je sais pas exactement de quelle honte il s'agit ici. Je n'ai pas vraiment trouvé. Bien sûr, c'est, on va dire, il a manifesté son amour d'Hachem, etc. Mais est-ce que ça leur fait honte? Je ne sais pas. Alors, donc, comme c'est Eliezer l'essentiel ici, ensuite on nous dit, dans le verset de Michelet, « Ubetoch achim yachlok nachala » Parmi les frères, il aura une part à l'héritage. Alors ça, c'est assez compliqué aussi, parce que d'abord, qui sont les frères, là? Donc, je crois que c'est une image. C'est pas pour dire qu'il va partager avec des frères bien précis, parce que l'héritage. Et donc, et qu'est-ce que c'est que l'héritage? L'héritage, c'est... Non, un héritage, c'est quelque chose qui vient de la génération précédente. Et donc, invoquer le Zchout Avot, c'est avoir part à l'héritage. Pouvoir invoquer le Zchout Avot, ça veut dire être partie prenante dans l'héritage. Vous ne pouvez pas invoquer le Zchout Avot pour avoir une part d'héritage de votre voisin. Donc, alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que Eliezer, il peut invoquer le Zchout Avot, c'est ce qu'il fait là. Le Midrash entend ici que quand il dit, il demande à Hachem Elokei Adoni Avraham, ça fonctionne avec le principe de Zchout Avot. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il demande quelque chose pour lui. Parce que s'il demandait pour Avraham, il n'a pas besoin de Zchout Avot. Ce n'est pas Zchout Avot, il demande pour Avraham, c'est Avraham qui demande. Mais si tu dis que ça fonctionne comme Zchout Avot, qui je crois est la traduction de partager la Nahala, autrement je ne vois pas, on n'en sait rien si Eliezer il a une part à l'héritage d'Avraham, a priori ce n'est pas marqué dans la Torah quand il partage ses biens, Avraham Avinu, au moment de son décès. Il n'est pas marqué qu'il a donné une part à Eliezer. C'est sûr qu'il a donné une part à Eliezer. Je veux dire, c'est pas, ce serait pas humain de rien lui avoir donné. Mais c'est pas en tant qu'héritage. Je pense que la notion d'héritage ici, c'est un mot pour dire Zchout Avot. Et alors, du coup, c'est intéressant. C'est peut-être que c'est lié avec le Uimshol Baben. C'est lui qui est Moshel. Quelque part maintenant, il dit « moi, c'est moi qui suis là, à l'œuvre. Et je demande que ça fonctionne, Itam Zchout Avot. » C'est un peu étonnant parce qu'on a un peu l'impression que, c'est pas comme ça qu'en tout cas, c'est pas comme ça que j'avais entendu quand chaque fois qu'il disait « Hachem Elokei Adoni Avraham », j'avais pensé qu'il parlait, comme il est l'alter ego d'Abraham, je pensais qu'il parlait quasiment au nom d'Abraham. Mais si on parle ici de Zchout Avot, c'est quand Zchout Avot, je demande de pouvoir bénéficier du mérite des Avot, mais pas que j'agis en leur nom. Ou alors il faut renverser les choses, ou bien ça vient enseigner que Zchout Avot, ce serait ça. Est-ce que Zchout Avot, ce serait de demander les choses comme si le Hav le demandait, et ensuite je l'ai comme héritage. On pourrait lire comme ça. Zchout Avot, c'est pas invoquer le mérite des Avot, mais parler au nom des Avot, dire que quelque part, je ne suis que l'héritier, et ce que je vais recevoir, je vais le recevoir par héritage, mais toi, tu l'auras donné au Avot. Ce serait, disons, un peu plus simple à expliquer pourquoi ça marche comme ça. Et à ce moment-là, c'est presque naturel. C'est seulement, j'ai le droit de demander que à Hachem qu'il le fasse pour mon ancêtre. Mais pas pour moi, pour cause de mon ancêtre. Qu'il le fasse pour mon ancêtre, qu'il lui donne à mon ancêtre. Et après, ça fonctionne avec les lois d'héritage. C'est pas comme ça que je me suis représenté la Nahala, mais peut-être que le Midrash y pense comme ça. Ça expliquerait très bien la notion de Zchout Avot en tant qu'héritage. Et donc, il termine, il continue, Eliezer, et dit à Créna, fais en sorte que je la rencontre aujourd'hui. Et alors, le Midrash dit, Akrena lefanai ayom vase chesed imadoni Avraham. Fais en sorte que je la rencontre aujourd'hui et ainsi tu feras du chesed avec mon maître Avraham. Le Midrash il dit Itralta Gmor. Tu as commencé, termine. C'est intéressant, c'est-à-dire que il y a un principe que quand tu commences quelque chose, tu dois le terminer. Que effectivement, on dit que quand quelque chose est terminé par une autre personne que celle qui l'a commencé, le mérite de la chose est sur la personne qui a terminé. Enfin, par rapport à Hachem, je ne sais pas si ça s'applique. Mais il lui dit, Itralta Gmor. Où est-ce qu'il a commencé à faire du chesed? C'est quand Eliezer, il a eu Kfisat Haderech. Il a fait en un jour le trajet entre Eretz Israël et la Mésopotamie, enfin, et chez Betuel. Ça devait prendre normalement quelques jours. Il dit, je l'ai fait en un seul jour. Donc, puisque tu m'as donné Kfisat Haderech, c'est déjà un chesed. Donc, on est dans une phase de chesed, alors continue. C'est étrange. Je voyais pas très clairement pourquoi on avait besoin de ce genre de commentaire sur le verset. À ce chesed, il m'a donné Abraham. Fais du chesed avec Abraham. Est-ce que vous comprenez le problème? Alors, voilà. Peut-être on peut expliquer la chose de la manière suivante. Je vous ai déjà dit souvent que dans une prière, dans une tfila, on peut pas faire une tfila pour un nes, pour un miracle. Parce que la tfila, ça fonctionne comme le principe de la bracha, par la multiplication. Et dans un nes, c'est pas un phénomène de multiplication puisque on fait quelque chose à partir de rien du tout. Il n'y a rien. Et donc, on ne peut pas prier pour un S. Par contre, on peut prier s'il y a eu un tout petit commencement pour que ce soit amplifié. C'est le principe de la bénédiction. Et donc, on peut penser ici que le Midrash veut dire que Eliezer, il ne demande pas un S. Demander à Hachem de faire du chesed, c'est peut-être quelque chose, peut-être de faire du chesed comme ça, peut-être c'est comme à partir de rien, quoi. Est-ce qu'on peut pas dire, Avraham, il a des droits sur du chesed. Un homme, un être humain, il n'a pas de droits par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et donc, en fait, comme c'est une prière qu'il fait, Actre Night, je te prie, alors il fait référence au fait que tu l'as déjà commencé. Donc je te demande pas un miracle. Le Asé Chesed ici que je te demande, c'est la suite de ce que tu as déjà commencé. C'est peut-être pour ça que le Midrash a dit Itralta Gmor, tu as commencé, termine. Rav Chagai Beshem Rabbi Yitzhak Amar, Akol Tzrichim Lechesed. אפילו אברהם, שהחסד מתגלגל בעולם בשבילו, נצרך לחסד, שנאמר, ועשה חסד עם אדוני אברהם. Ça, c'est une leçon. On a une leçon qui est donnée ici par Eliezer. Eliezer nous enseigne que même Abraham, il a besoin de chesed. Pourtant, c'est ça que je vous disais, que Afraga, il dit, dans Rabbi Tzrak, il dit, Abraham, a chesed mitgalgel ba'olam bishvilo. Le chesed, il dégouline dans le monde pour Hachem, pour Abraham, pardon. Parce qu'Abraham pratique le chesed, donc il mérite que le chesed se déverse dans tout le monde. Et c'est, bon, c'est grâce à lui que ça fonctionne. C'est un peu la même chose que veiller bracha, tu vas devenir une bracha. Donc Abraham fait les choses qui font que Hachem déroule du chesed, enfin il envoie du chesed, un flux de chesed dans le monde. Alors on pourrait dire, ok, alors ce chesed il est dans le monde et Abraham peut en bénéficier. Et d'Eliezer ici on voit qu'il demande fait du chesed avec Abraham. Tout le monde a besoin de chesed. C'est un peu ce qu'on avait déjà vu. Vous vous souvenez, on avait vu quand on... Mais curieusement, c'était écrit comme ça dans la bracha, donc c'est un peu problématique avec ce que j'ai dit avant. C'est marqué « Hachem beracht Avraham bakol ». On avait vu que, d'après certains, Avraham avait eu trois choses comme bracha. Souvenez par exemple, il avait eu que Ishmaël avait fait tchouva de son vivant, etc. Et là-bas, c'est une bracha. Hachem lui donnait, ça c'est une bracha. Et j'avais essayé d'expliquer que il y avait eu ce sur quoi on s'était un peu arrêté, c'était sur le fait que dans la bracha qu'Hachem a donnée à Abraham, il y avait le fait que Abraham était devenu le maître de son Yetzer Hara. Il était moshel sur son Yetzer Hara. Il avait complètement maîtrisé le Yetzer Hara. Dans un endroit, on se marquait qu'il n'avait plus de Yetzer Hara. Ça veut dire qu'il était complètement maîtrisé. On avait expliqué que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Tout seul, on ne peut pas maîtriser complètement le Yetzer Hara. Mais quand on a fait tout ce qu'il fallait faire pour cela, alors Hachem donne le coup de pouce qu'il faut pour qu'on le maîtrise complètement. Donc, Avraham Avinu, il a eu ce... Et ça, c'était une bracha. Et c'est une bracha parce que c'est basé sur le fait que toi, tu as fait le travail. Il faut amplifier. Il y a une amplification que seul Hachem peut faire. Alors, ça, c'est comme ça. Et ça, c'est pas un nes. C'est une bracha. Ici, il demande quelque chose, il demande du chesed. Et on dit, bien qu'en réalité, on aurait pu penser que Abraham a droit au chesed, puisque le chesed le flux de chesed qui est déversé dans le monde, il l'est grâce à Abraham. Il pensait que voilà, il va avoir de chesed. Non, il faut un chesed spécifique. Donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire sans chesed. Et d'une certaine manière, on a toujours besoin de chesed, ça veut dire ce chesed, on n'arrive jamais jusqu'au bout. C'est possible que ce soit ça le... si vous voulez. On avait vu, je crois, dans un autre shiur, que cette idée aussi que l'être humain, il ne peut pas faire la totalité des choses. Mais s'il fait tout ce qu'il a à faire, alors Hachem complète. C'est-à-dire, s'il faut faire 90% et qu'il reste 10%, qu'Hachem donne dès lors qu'on a fait les 90%. Alors on peut se demander pourquoi on ne décide pas que le travail de l'homme, c'est de faire ce qui s'appelle les 90%, disons que c'est les 100%. Puisque c'est tout ce que j'ai à faire. Le reste, je ne peux pas le faire. Et Hachem le donnera le reste. OK, qu'est-ce que ça change? Disons que j'ai fait 100% de ce que je devais faire et qu'Hachem me donnera un en plus. On avait expliqué, bon, c'est Rish Lakish, je vois qu'il parle là-bas, que c'était important par rapport au problème de la gava. C'est-à-dire, l'être humain, il doit être conscient qu'il ne fait pas tout et qu'il ne peut pas faire les 100%. Si on faisait les 100% qu'Hachem nous en donne un en plus, on pourrait s'en nourrir, j'ai fait 100%. Tu ne peux jamais dire que tu as fait 100%. C'est vrai que même quand tu as fait tout ce que tu pouvais faire, ce n'est pas les 100%. Les 100%, c'est avec la contribution d'Hachem, si on peut parler comme ça. C'est ça, tout le monde a besoin de recettes. Il faut toujours la contribution à la chaîne. Bon, alors le problème, c'est est-ce que cette contribution, elle est la suite normale du fait que j'ai fait les 90%? Auquel cas, c'est du domaine de la bracha. Et dans ce cas-là, mon explication sur le recette, si c'est du recette, ça ne marche pas, puisque moi, je voulais dire que ce qu'il a demandé, c'est que si c'est du chesed, on ne peut pas le demander vraiment. Peut-être on peut quand même retomber sur nos pieds. En tout cas, l'idée est comme ça. Tout le monde a besoin de chesed. C'est toujours, on ne peut jamais tout faire tout seul. Il faut toujours du chesed de la part d'Hachem, y compris Abraham. Voilà. Et donc, il se met en scène de nouveau devant Hachem et il continue et il dit, voilà, je me tiens, Nitzav Alei Namaim, je me tiens au puits, là, auprès du puits. Et puis, voilà, Et les filles des gens de la ville en question sortent pour aller puiser de l'eau. Alors maintenant, il va donner un espèce de test pour Rivka, enfin pour la femme en question. Il va dire. Anahara, chère, la jeune fille à laquelle Omar Eleha, à laquelle je dirais Atina Kader, penche un peu ta cruche, Vejte, que je boive, Vehamra, et qui me dira, Jete, Vegam Gmalecha Ashke, bois, et je vais aussi abreuver tes chameaux, Ota, cette fille-là, tu as montré que c'était elle pour ton serviteur Yitzhak. Ubaeda est avec elle, je saurai, c'est Eliezer qui parle donc, qui asita chesed, il m'a donné, que tu as fait le chesed avec Abraham. je te demande de faire du chesed, comment je saurai que tu as fait du chesed? Eh bien, quand il y aura une fille qui répondra comme ça à ma proposition. Alors là vient le, c'est un morceau célèbre qui est très connu. Qu'est-ce que vous dites de la, du test? Qu'est-ce qu'il a testé chez cette fille? Bon, ne répondez pas tous à la fois. On ne s'entend plus, là.
Peut-être le chesed.
Oui, a priori, c'est le chesed. Il a regardé si cette fille était une baalat chesed. Pour entrer dans la maison d'Abraham, même si c'est Yitzhak qu'elle va épouser, dans cette maison-là, c'est une maison de chesed. Si la fille, elle n'a pas d'atome crochu avec le chesed, mais est-ce que c'est un vrai test? Il y a une jeune fille qui est là, il y a un étranger qui est là, qui lui dit, donne-moi à boire, et tu veux qu'elle te dise, oui, je vais encore abreuver tes chameaux? Franchement dit, vous trouvez que c'est normal de... Je ne sais pas, c'est pas surprenant, non? Elle, tout à coup, elle accepte d'engager la conversation avec un étranger. Une fille juive, aujourd'hui, elle passerait son chemin, non? Enfin, c'est comme ça que j'aurais éduqué mes filles, tu vois. Je ne crois pas que je leur aurais dit de répondre à ce type-là qui propose. Ou je ne sais pas, ou j'aurais dit, écoute, bon, je vais bien puiser de l'eau, je te pose la cruche, la débrouille-toi avec, mais ça veut dire je vais la donner à boire, elle va lui, le type il va ouvrir la bouche, elle va lui verser dans la bouche.
Autre meurt.
Oui, oui, d'accord. Franchement dit... Je ne sais pas, c'est un peu étonnant, non? En tout cas, il a fait ce test-là. Et comme, bon, ce n'est pas un scoop, mais il a passé le test. Hein, je sais pas. Bon. Mais les Chachamim, ils ne le reprennent pas là-dessus. Mais ils le reprennent sur autre chose. Arba hen chez Tavou, chez Loke Hogen. Il y en a quatre personnages qui ont tavou. Tovea, c'est normalement c'est exigé, c'est ils ont demandé quelque chose. Peut-être qu'il y a justement dans ce mot tovea quelque chose d'un peu critique sur. C'est une exigence un peu forte quoi. Ils ont mal demandé. Chez Loke Hogen, pas comme il faut. Le Shlosha Nitan Ke Hogen. À trois d'entre eux, la réponse a été comme s'ils avaient bien demandé. Ou les Echad Nitan Chez Loke Hogen. Mais à l'un d'entre eux, un des quatre, pour l'un des quatre, la réponse n'était pas. La réponse était quelque chose de, qui ne convenait pas. C'est-à-dire qu'il était quelque part une réponse à sa... On l'a pris au piège de sa mauvaise formulation. A priori, on ne comprend pas. S'il existe des réponses convenables à une question qui n'est pas convenable, pourquoi est-ce que tout le monde n'en bénéficie pas? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, celui-là qui n'a pas bénéficié de ce dont les trois autres ont bénéficié? C'est un scandale, non? C'est une injustice flagrante. On n'a pas beaucoup de réactions ce soir. Tant pis. Alors, les trois, les quatre, Eliezer et Ben Abraham, Caleb, Shaoul, Iftach. Eliezer et Ben Abraham, Caleb, le grand Caleb, le Meraguel qui n'est pas tombé dans le piège, puisque Yoshua s'est monté pour beurre, puisqu'il avait été adoubé par Moshe Rabbeinu, donc personne n'a rêvé qu'il allait se joindre au complot. Caleb, Shaoul dans l'histoire de Goliath, et Iftach, pour ceux qui ne connaissent pas le client, c'est un des juges. Dans la période des juges, la période où Ishkol Yashar Be'enav Yaaseh, période durant laquelle les gens faisaient ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas d'autorité, c'est après la période de Yoshua et avant la période des rois. Donc, d'un côté, c'est Yoshua, de l'autre côté, c'est Shaoul, le premier roi. Voilà. Eliezer a dit, Veya Naara, Asher, Omar Elea, Atina Kader, etc. Donc on lui objecte, dans ta formulation, Ha Ilu Yatsa Ama Achat, Vish Kato, Ayamasia, le Ben Adono, et moi, je m'étonne. Si c'était une esclave qui était sortie, qui avait donné à boire, tu l'aurais choisie comme épouse pour le fils de ton maître. Aïe, tu as dit Hanara, la fille. Donc, en français, tu as eu du bol, ce soir, Rivka qui sort. Kolev aussi. Il y avait un problème, il a dit « Asher yaket kiryat sefer ou le chada venatati lo et achsa biti leisha. » Il ou le chada eved echad ayanoten lo bito. C'est à peu près la même objection. Et si c'était un eved qui avait conquis kiryat sefer, tu lui aurais donné ta fille en mariage. Alors, il a eu beaucoup de chance parce que Zimen lo Akadosh Baruch Hu Kehogen, c'est-à-dire Vail Kida Otniel Ben Kenaz Achi Kalev. C'est Otniel Ben Kenaz, son frère. Vaiten Loet Arsa Bito Leisha. Donc, Othniel a épousé sa nièce. Relativement bien tombé. Et on peut tomber plus mal que Othniel. Hein. Othniel, c'est celui qui a résolu le big problème de Yoshua. Quand Moshe Rabbeinu a su qu'il allait mourir, il a dit à Yoshua, je vais disparaître, là maintenant pose toutes tes questions. Et Yoshua, il a dit, mais tu as écrit toi-même dans la Torah que je n'ai jamais quitté le Beit HaMidrash. Je n'ai pas de questions. Après la mort de Moshe, il a oublié 3000 halakhot. Alors le peuple lui a dit, vas-y, interroge Hachem. Mais c'est plus possible. Après Moshe Rabbeinu, on ne peut plus interroger directement Hachem. C'est la Torah chez Birtav, elle est close. Alors, on a voulu le lapider. Il a été sauvé parce que Othniel ben Kenaz, avec son pile-poule, quoi, il a retrouvé ses halakhot. En passant, on apprend ici que le texte de la Torah n'est pas ce qu'on appelle un texte minimal. S'il était minimal, on n'aurait pas pu, à partir de ce qui reste, retrouver autre chose. Trouver une partie perdue. Mais c'est un texte qui est suffisamment redondant pour que, en utilisant toutes les règles de l'herméneutique, etc., on peut retrouver des choses qu'on a oubliées, qui font partie de la Torah. Par exemple, c'est marqué dans on voit des fois dans la Gemara, un kalvachomer est néanmoins tarar fait katablo. Néanmoins, la Torah, elle a écrit un verset. Alors qu'on aurait pu l'apprendre à chose avec un kalvachomer. Donc, on voit qu'il y a une redondance. Le kalvachomer, c'est une règle qu'on peut appliquer, avec laquelle on aurait pu tirer cette halakha. Dans le pasuk, il y a un pasuk explicite. C'est une forme de redondance. Enfin bon, c'est en passant. On voit que la Torah, elle est comme ça. Donc, il a eu beaucoup de chance. Il est tombé sur Othniel, qui était donc son frère. Shaul, la même chose. Il a dit, « Aïcha Shai Akenu, Yashrenu Amelech, Osher Gadol, Vedbito Itenlo. » Et Shaul, il a dit, celui qui va battre cette espèce de montagne qui s'appelait Goliath, je l'enrichirai et je lui donnerai ma fille. Aïlou yassa kushi echad o ved kohamim echad o eved ayanoten lobito. Est-ce qu'il lui aurait donné sa fille? Évidemment pas. Donc, tous ces braves gens, tous ces gens qui sont des géants, mais qui, curieusement, ont eu des formulations qui étaient trop générales. Eux, ils pensent, dans leur tête, ils pensaient que c'est sûr que ce sera quelqu'un d'adéquat qui allait le faire, parce que c'était quelque chose qui demandait une forme de siyata d'Ishmaïa, et la siyata d'Ishmaïa, elle ne va pas arriver chez n'importe qui. Hachem ne va pas faire en sorte que quelqu'un qui ne peut pas être roi ou qui ne peut pas être la femme du roi, etc., va être choisi par le test en question. C'est ce qu'eux pensaient. Mais on voit qu'on n'a pas le droit de... On ne peut pas compter là-dessus. Il faut que tu travailles tout seul et que tu sois précis, ultra précis. Et celui pour lequel ça n'a pas marché, vous savez bien, c'est Iftar. Iftar, c'était pas une lumière, mais c'était un bon guerrier. Et à l'époque des juges, il y avait sans arrêt certaines tribus qui étaient agressées par les Philistins. Ils les battaient en général. Et ensuite, quelques tribus se mettaient ensemble et se désignaient un chef de guerre. Et ils allaient faire la guerre contre les Philistins, récupérer ce qu'il fallait récupérer. Et du coup, celui qui avait gagné, il restait juge. Il dirigeait momentanément le peuple. Alors, vous en connaissez quelques-uns. Vous connaissez Shimshon, au moins. D'accord. Shimshon, c'est celui de Dalila. Et vous connaissez, il y a aussi, Shmuel était aussi, Shmuel il est à la fin de cette époque aussi. Bon, alors, lui, il a dit, je vais faire la guerre, et il a dit à Hachem, si tu me donnes, si tu me donnes la victoire, oui, à Shaul, il a eu de la chance parce que c'est tombé sur David. Chez Iftar, il a dit, Ayotse Asher Yetsemi Dalte Beiti, la créature, Ayotse, ce qui sortira des portes de ma maison quand je reviendrai victorieux, va aliti ou hola. Je le montrerai en hola. Alors, c'était déjà une question. Et si ce qui était sorti en premier, c'était Tzach Hamor Echad, ou Kelev Echad, ou Chatoul Echad, Ayama Ale ou Ola, je l'aurais amené en holocauste si c'était un chat, un chien ou un âne. Zimen lo Akadosh Baruch Hu Shelo Kehogen. Mais Hachem lui a répondu d'une certaine manière, à la hauteur de l'imprécision de ce qu'il avait dit. C'est marqué Veine Bito Yotset Likrato. C'est sa fille qui est sortie en premier. Elle est sortie avec des tambourins, de la musique, etc., pour accueillir le héros. Et lui, quand il a vu que c'était sa fille, il a déchiré ses vêtements. Parce qu'il pensait, ça voulait dire qu'il devait faire la shrita de sa fille. Mais le Midrash, il ne s'occupe pas tellement de ça. C'est OK, Iftar, il ne comprenait pas grand-chose. Mais il y a un autre problème énorme qui s'est produit à ce moment-là. Le Midrash dit Rabbi Yochanan dit, Rabbi Yochanan, c'est une discussion Rabbi Yochanan et Reish Lakish, comme souvent, Rabbi Yochanan dit Ekdesh damim aya chayav. Bon, qu'est-ce que c'est? On aurait dû évaluer combien elle vaut au marché aux esclaves, pas qu'on la voit, on va pas la vendre comme esclave, mais c'est un moyen d'évaluer. Et ce montant-là, il aurait dû le donner à Ekdesh. Terminé, c'est tout. Et Reish Lakish dit bien plus. Reish Lakish dit mais non, il y avait rien à, il y avait rien du tout. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un désigne quelque chose qui ne peut pas aller du tout sur le misère, alors on n'est pas khayav, c'est tout, c'est une erreur. Donc il n'y avait rien à apporter. Donc eux les Amoraïm, ils disent il n'y avait rien, c'était ou un peu d'argent ou rien du tout. Mais eux, ils pensaient que, voilà, j'ai un vœu. Ils ne connaissaient pas les halakhot, quoi, quelque part. Donc pour lui, c'est un vœu. Il faut que je m'acquitte de mon vœu. Alors on dit, mais Veloaya Sham Pinchas, Yatir Loetan Enidro. Il y avait Pinchas qui est Kohen Gadol, qui peut être Matir un Eder qui concerne Ekdesh. On aurait pu être Matir son Eder. On aurait pu défaire son vœu. Mais quoi? Et la Pinchas Amar, Pinchas a dit, Utsarich li, vani elech etzlo. C'est lui qui a besoin de moi. Pourquoi c'est moi qui dois aller chez lui? Qu'il vienne lui chez moi. Et Iftach, il a dit, Ani Rosh Ktsine Israël. Moi, je suis le prince des capitaines d'Israël. J'ai gagné la guerre. Gagner la guerre, je suis le roi. Je vais aller chez le Kohen Gadol. C'est lui qui doit venir chez moi. Donc elle s'est perdue complètement dans cette affaire-là. Entre ces deux-là qui chacun remet sur son kavod. On donne un exemple que quand l'accoucheuse et la parturiente et la mère sont pas d'accord, alors ils s'occupent du bébé. Entre ces deux-là, c'est elle qui a trinqué. Là. Mais en fait, ils ont été tous les deux punis. Mais ça, on verra la prochaine fois. Je suis désolé, j'ai déjà dépassé largement l'heure, mais vous n'avez rien dit, donc c'est votre faute.
On prend.